6h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe et vous donne la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur la Côte d'Ivoire où plusieurs poids lourds de l'opposition sont pour l'instant exclus de la présidentielle du mois d'octobre. Mais d'abord le journal international. Bonjour Marion Cazeneuve.
Et c'est Jeanne Bartoli. Bonjour Juan Gomez. Dans ce journal, un économiste reconnu, novice en politique, Marc Carney et son parti libéral remportent les élections au Canada. Les conservateurs accusent une défaite malgré des sondages qui les ont donné un temps en bonne position. La campagne aura été marquée jusqu'au bout par l'ombre de Donald Trump et par ses menaces d'annexion. En Inde, c'est aujourd'hui la date butoir pour les Pakistanais pour quitter le Cachemire suite à un attentat dans la région. Une escalade diplomatique s'est enclenchée entre les deux pays. Nous serons en Inde. À suivre aussi, les ministres des Affaires étrangères maliens, nigériens et burkinabés en visite au Maroc hier, au cœur des discussions, un potentiel futur accès à l'océan Atlantique. Et puis le courant rétablit totalement ce matin en Espagne et au Portugal après la plus importante coupure électrique de l'histoire des deux pays. Le Canada ne doit jamais oublier la trahison américaine. La déclaration ce matin de Marc Carney après la victoire de son parti, le Parti libéral, au lendemain des législatives. Les conservateurs, emmenés par Pierre Poilievre, ont reconnu eux leur défaite. Donné un temps favori des sondages, ils payent les multiples déclarations de Donald Trump en faveur d'une annexion du Canada au siège du Parti libéral. L'ambiance était donc hier à la fête, même si la majorité au Parlement devrait leur échapper de peu selon les résultats encore préliminaire. Reportage au siège du parti à Ottawa, Marine de la Moissonnière.
C'est incroyable. Il est 22h et les libéraux ont déjà gagné. Je ne pourrais pas être plus heureux.
Jason Vadji n'en revient pas. Au début de l'année, les libéraux s'attendaient à prendre une raclée face aux conservateurs. Mais Donald Trump a changé la donne. Pour ce consultant de 32 ans, Marc Carney doit désormais faire fléchir le président américain.
Sa priorité, ça doit être Donald Trump. Il doit protéger l'économie canadienne des droits de douane. Les travailleurs, l'industrie, c'est sa mission numéro un.
Anna Price, 18 ans, a elle aussi l'impression de vivre un moment historique, mais cette étudiante ne perd pas de vue la suite.
Je veux de la transparence. Je veux que Marc Carney nous dise ce qu'il compte faire. Donald Trump est une vraie menace pour les Canadiens. Je n'ai aucun doute sur le fait que Marc Carney va être génial. Son CV est impressionnant. Mais je veux qu'il nous tienne au courant. Je n'aime pas que les politiciens nous cachent des choses.
Marc Carney va très vite avoir l'occasion de se mesurer à Donald Trump. Les négociations en vue d'un nouvel accord commercial entre les deux pays sont censées commencer début mai. Hier soir, il a promis qu'il ne se laisserait pas faire. Marine de la Moissonnière, Ottawa, RFI.
Et dans son discours, le leader conservateur Pierre Poilievre a promis, lui, de travailler avec Marc Carney et de placer l'intérêt du pays avant les luttes partisanes face aux menaces qu'il a qualifiées d'irresponsables du président américain. En Inde, dernier jour pour les Pakistanais pour passer de l'autre côté de la frontière suite à un attentat dans le Cachemire ayant fait 26 morts. Une escalade diplomatique s'est enclenchée entre les deux voisins. Islamabad nie toute implication. Parmi les sanctions décidées par New Delhi figure donc le renvoi de quasiment tous les Pakistanais. Il serait plus de 500 à être déjà partis. Correspondance Combastin.
Vu l'animosité entre les frères ennemis nés de la partition en 1947, la communauté pakistanaise en Inde est réduite. Différents États la chiffrent en centaines ou en milliers sur leur territoire, mais il n'existe pas de recensement national et l'Inde n'a pas communiqué de chiffres sur la question. Il serait 537 à avoir passé la frontière d'Atari dans le Punjab, où les armées des deux pays se font face lors de parades. D'autres ont emprunté les voies aériennes. Difficile donc de savoir combien sont restés en dépit du risque de 3 ans de prison. La classe politique et la société indienne soutiennent la décision de Narendra Modi. Les médias rendent compte cependant de scènes de larmes à la frontière, comme le Pakistan a riposté en expulsant aussi des Indiens. Les familles mixtes sont condamnées à la déchirure du jour au lendemain, comme une partition miniature. Après ces expulsions, les deux pays semblent irréconciliables. Seuls leurs gouvernements se font désormais face, multipliant les sanctions et les menaces, alors que des échanges de tirs ont lieu depuis 5 jours le long de de leurs frontières disputées. Combastin, Bangalore, RFI.
En Syrie, 4 personnes tuées dans des affrontements entre les forces de sécurité syriennes et des combattants druzes à Jaramana, dans la banlieue de Damas, sur fond de tensions confessionnelles. C'est ce qu'indique ce matin l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces incidents interviennent un mois maintenant après des massacres qui ont visé la minorité alaouite dans le pays, où une coalition islamiste a pris le pouvoir en décembre dernier. Les ministres des Affaires étrangères maliens, nigériens et burkinabés en visite au Maroc hier, au cœur de ces discussions à Rabat, un potentiel futur accès à la mer pour ces 3 pays enclavés depuis des mois. Une initiative lancée par le Maroc envisage de leur offrir un accès à l'océan Atlantique. Explication avec Pierre Firsion.
Le Malien Abdoulaye Diop, le Nigérien Bakary Yaou Sangaré et le Burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré se sont entretenus hier à Rabat avec Mohamed VI. Une photo de la rencontre faisait hier soir le tour des réseaux sociaux. Les 3 hommes ont, selon l'agence de presse marocaine, salué l'initiative lancée par Mohamed VI en réaffirmant leur adhésion totale et leur engagement pour accélérer sa mise en œuvre. Ce projet d'accès à l'océan Atlantique avait été annoncé fin 2023 par le roi du Maroc. Le Sahara occidental est-il concerné par ce projet ? L'océan Atlantique s'étend longuement sur les côtes de ce territoire disputé et revendiqué par le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. L'initiative risque donc d'attiser un peu plus les tensions entre Alger, Rabat et les pays de l'AES. Mais pour ces 3 pays enclavés, le projet est d'importance à l'heure où ces États, gouvernés par des jeunes militaires, entretiennent des relations souvent tendues avec les pays du Golfe de Guinée. Le chef de la diplomatie nigérienne a qualifié hier l'initiative d'aubaine, mais ce projet pourrait prendre du temps à se concrétiser. Aucun calendrier n'a encore été annoncé pour sa mise en œuvre.
Pierre Firsion. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Justice assure que Tidiane Thiam n'est pas apatride. Hier, le ministère a tenu un point presse pour clarifier sa situation. Le leader du PDCI est inéligible suite à une décision du tribunal qui a ordonné sa radiation de la liste électorale. C'était mardi dernier. Le tribunal estime en effet que Tidiane Thiam n'avait plus sa nationalité ivoirienne au moment de s'enrôler sur les listes en 2022. Le PDCI demande un dialogue et la réintégration de son leader sur la liste électorale. Les avocats de Tidiane Thiam ont déposé un recours hier pour faire annuler la décision prononcée la semaine dernière. La compétence universelle de la justice française au cœur d'un procès d'un ex-rebelle salafiste syrien, Mahdi Nema, ancien membre de Jaïch al-Islam, âgé de 36 ans. Il est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris pour complicité de crimes de guerre entre 2013 et 2016 en Syrie. Des accusations que conteste sa défense, qui estime il est légitime la tenue de ce procès en France. Écoutez l'un de ses avocats, Raphaël Kempf.
Il n'est pas possible qu'une ancienne puissance coloniale comme la France rende la justice à la place du peuple syrien, tant d'un point de vue pratique que politique. Politiquement, tous ceux et celles qui travaillent sur la justice transitionnelle savent que celle-ci doit être rendue au plus proche du peuple qui est le premier concerné. Et d'un point de vue pratique, il est évident que c'est en Syrie que peut se dérouler dans de bonnes conditions ce procès, c'est-à-dire en ayant accès à tous les éléments à charge et à décharge, à tous les témoins à charge et à décharge. Il faut rappeler que pendant les 5 ans de l'instruction, nous avons demandé l'audition d'un certain nombre de témoins et que cela nous a été refusé au motif qu'ils étaient en Syrie ou en Turquie. Donc on est dans une situation où on commence ce procès alors même que les éléments à décharge ne pourront pas être discutés et débattus.
Raphaël Kempf au micro de Laura Martel. Ce sera dans une heure environ, la fusée Vega C s'élancera de Kourou en Guyane pour emmener le satellite Biomasse dans l'espace, satellite de l'Agence spatiale européenne qui doit nous aider à mieux connaître l'état de santé de notre planète. Il doit cartographier par exemple la géologie souterraine des déserts ou encore la structure de la calotte glaciaire et apporter des informations sur nos forêts. Simonetta Celli est la directrice des programmes d'observation de la Terre à l'Agence spatiale européenne.
Une technologie surtout qui pourra nous donner des informations très importantes sur tout ce qui est la qualité de la forêt en zone, en région tropicale, et non seulement la qualité, mais la santé et l'état de santé des forêts. Donc on ne regarde pas que l'extension des forêts, mais dans ce cas-là, avec Biomasse, on aura des informations très importantes sur les types de végétation et même on arrive à voir si c'est un tronc de du feuillage ou autre chose. Donc ça c'est essentiel pour avoir des paramètres d'information importants sur tout ce qui est lié au cycle du carbone et donc au climat en général.
Simonetta Celli au micro d'Adriana Brandao de la rédaction en brésilien d'RFI, 10h10 à Paris. Vous restez avec nous tout de suite, c'est Juan Gomez.
Avec les auditeurs de RFI, merci Jeanne Bartoli, bonne journée, 8h10 en temps universel. Dans 30 secondes, vous aurez...